quoi tu penses? Toi là-bas, à quoi tu penses? Et toi, est-ce que t'as des amis? Mais des vrais amis, je veux dire. Et qu'est-ce que tu leur dis à tes vrais amis?
Sarah, on avait dit pas de questions.
Ah. Et toi, t'as une amoureuse? Ou un amoureux? Ou les deux?
Arrête!
Quoi?
C'est gênant.
C'est pas gênant, je vous pose des questions.
Si tu leur demandes si c'est gênant, c'est encore plus gênant.
Mais moi, j'adore poser des questions. Je suis curieuse. Curieuse des gens. Curieuse de vous. Mais vous aussi, vous êtes curieux. Même de nous, c'est dire. D'ailleurs, on a des preuves. Hein, JB, on a des preuves.
Oui, des belles preuves.
Ouais.
De quoi êtes-vous curieux? C'est la question qu'ont posé l'autrice Sarah Carré et le musicien Jean-Bernard Host à des enfants afin de monter le road movie théâtral, musical et radiophonique « La puce et l'oreille ». En effet, ils sont allés à la rencontre de jeunes curieux des Hauts-de-France et d'ailleurs, côté mer et côté montagne, pour recueillir des témoignages, des paysages sonores et des objets. Lors d'une représentation au Métaphone de Wany, entre Douai et Lens, rencontre avec les deux artistes, en commençant par Sarah Carré.
J'écris du théâtre et dans ce spectacle, La puce et l'oreille, je fais plusieurs choses. C'est un spectacle à la fois que j'ai écrit et que j'interprète avec Jean-Bernard, le musicien.
Alors comment s'est fait l'idée de départ de ce spectacle déjà, La puce et l'oreille ?
À l'origine de ce spectacle, il y a un autre spectacle pour adultes qui s'appelle Les lieux où j'ai repris le goût de nous, qui était un spectacle dans lequel j'étais également sur scène avec JB Host, pour lequel j'avais collecté des paroles d'adultes, des adultes qui étaient réunis en collectif. Et donc ce spectacle-là interrogeait la question du collectif, pourquoi on se rassemble, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est difficile dans le collectif. Après cette expérience scénique et cette rencontre avec JB, on a eu envie de faire un spectacle pour la jeunesse, puisque l'Embellie, qui est le nom de la compagnie, a une identité jeunesse.
Et justement, oui, j'allais poser la question de définir cette compagnie, l'Embellie. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors l'Embellie, c'est une compagnie qui a une identité jeunesse forte. Quand on dit identité jeunesse, ça veut dire qu'on s'adresse à un public à partir de l'enfance, avec l'envie évidemment de créer des spectacles qui s'adressent à tous.
Donc pour ce spectacle La puce et l'oreille, vous avez parcouru pas mal de régions, la France, pour les témoignages, hein, c'est ça, d'enfants ?
Oui, alors ce voyage qui a permis de collecter les paroles d'enfants, on l'a démarré ici en région Hauts-de-France, puisque c'est ici que nous sommes implantés. On a donc démarré dans le nord avec Cassel et puis on est allé dans le Pas-de-Calais, à Le Forêt, accompagné ici par le 99 bis, et puis à Limbrun, près de Saint-Omer. Ensuite, on est allé en Normandie et puis dans les Pyrénées et également dans l'Oise. Donc l'idée, c'était d'avoir une photographie en fait, de la curiosité des enfants dans des régions différentes et puis également dans des contextes de vie différents, plus ou moins urbains, plus ou moins ruraux. Ouais.
Ensuite, après la récolte de tous ces témoignages, il a fallu faire un choix pour le spectacle La puce et l'oreille. Comment ça s'est fait à ce moment-là?
Alors ça a peut-être été la partie la plus compliquée, c'est-à-dire qu'on a eu des heures et des heures d'enregistrement. Le tri, le choix de ce qu'on allait conserver pour fabriquer une heure de spectacle, il s'est tout simplement fait en fonction de l'avancée du propos que j'avais envie de construire sur la curiosité et de ce que j'avais envie d'en dire. Et puis évidemment, ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de regrets. Mais voilà, c'est tout. Alors on se pose encore la question de ce qu'on fera peut-être un jour de tout ce qui n'est pas dans le spectacle. Et on imagine peut-être créer encore des documents sonores, des podcasts. Voilà, parce que c'est vraiment très très riche, tous ces enfants qu'on n'entend pas.
Équipés de micros, de stylos, de matériel audio, on est venu vous trouver et on vous a demandé de quoi êtes-vous curieux. Pour vous raconter notre voyage, on vous a ramené plein de surprises. Alors, nos souvenirs de Cassel, ils sont là. Cassel, c'est chez nous. Tout en haut, dans le nord du nord de la France. Et là, ce sont nos souvenirs de Le Forêt. Le Forêt, c'est près d'ici. C'est le sud du Nord. Et là, on a encore nos souvenirs de Blainville. On n'a pas déballé encore. Mais Blainville, c'est près de la mer en Normandie. C'était vachement chouette. Et là, on a aussi les objets des enfants de Saint-Pé-de-Bigorre. C'est à la montagne, dans les Pyrénées. J'espère qu'on aura le temps de vous les montrer. Et puis, nous sommes allés à Limbre. C'est ça. Il y a un très joli golf à Limbre. Merci, JB. Et là, ce sont nos souvenirs de Pontpoint. Pontpoint, c'est près de Paris. Mais c'est un petit village à la campagne.
Et durant le spectacle, on a aussi du texte. Hein. Vous avez un texte à chaque fois pour nous conter le compte-rendu de ce qu'ont pu vivre, ont pu dire les enfants, hein, c'est ça? Il y a eu ce travail d'écriture ensuite, après les témoignages.
Alors l'écriture du spectacle, en fait, c'est faite en même temps que le choix des paroles. C'est-à-dire que c'est un texte que j'ai écrit avec l'idée qu'il soit en adresse aux enfants qui sont dans le public. Et également de telle sorte qu'ils puissent intégrer les paroles des enfants. Donc évidemment, c'est un texte qui, contrairement aux autres textes que j'écris pour le théâtre, qui est en l'occurrence difficile à lire et à entendre seul, puisqu'il est éminemment lié aux enfants qui me répondent.
Dans le spectacle, on a toute la partie musicale, sonore aussi, que lance en live JB Host. Donc le texte s'est fait en même temps que le son, c'est ça, et la musique, ou non, ou ça s'est rajouté ensuite?
Non, alors en fait, moi j'ai écrit le texte avec les voix des enfants qui sont venus s'incruster. C'est vraiment un travail d'incrustation entre les voix enregistrées et la mienne, qui est, comme vous l'avez dit, une voix qui est plutôt narrative. Et après, au plateau, on a travaillé dans ce rapport avec la musique et le texte.
Et donc là aussi, c'est l'idée d'interroger les enfants présents durant le spectacle aussi sur la curiosité, aussi bien la curiosité qui pousse à s'ouvrir au monde, mais aussi une curiosité qui peut être un peu plus intrusive, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, on avait envie, on a vraiment envie que les enfants présents dans le public se sentent vraiment concernés par ce qu'on raconte et soient dans une identification en fait aux voix qu'ils entendent. C'est-à-dire que on avait envie de faire en sorte qu'ils puissent imaginer qu'ils sont ceux qui répondent ou que leurs voisins, leurs copains avec qui ils sont venus au spectacle sont ceux qu'on entend dans le spectacle. C'est la raison pour laquelle on a imaginé ce petit dispositif à un moment donné qui reprend leur curiosité qu'ils ont auparavant, avant le spectacle, écrit sur des petits mots et que nous, on prend le temps de récupérer et de découvrir en fait pendant le spectacle. Et ce moment de connivence avec les enfants du public nous laisse espérer que ça poursuive le fil de la relation entre ces enfants-là et ceux qui sont sur scène en fait.
Et la curiosité renvoie aussi à beaucoup d'émotions qu'on a durant le spectacle, hein. La joie, la peur, etc., la tristesse, hein, aussi. On a aussi ça, de l'émotion chez les enfants.
Bah, en fait, on a passé tellement de temps avec les enfants, sur chaque classe, on a passé une semaine complète avec eux, donc forcément, il se vit beaucoup de choses, il se dit beaucoup de choses, on aborde tellement de questions que... On arrive forcément avec une multiplicité de registres qui sont ceux de la vie, quoi.
Moi, j'aimerais bien aussi savoir si les poupées ou les toutouis sont vivants. C'est ça, j'ai peur, moi, de dormir maintenant avec mes poupées à côté de moi. J'ai tellement peur qu'elles soient vivantes. En plus, j'en fais des cauchemars la nuit. Quand je dors, je peux même pas étendre mes jambes. J'ai peur qu'il y ait un humain sous mon lit. Un humain sous mon lit. Dans ma maison, quand je suis partie, il n'y avait aucun jouet par terre. Et là, je re-rentre, il y a une figurine pendue à un lit. Mais tu sais pas forcément que les fantômes existent, ça se trouve, ils n'existent pas. J'ai été cachée, j'avais peur. Et je voyais comme quelqu'un en fait dans ma chambre qui marchait vers moi. Et quand il faisait un pas, ça faisait un bruit. Et c'était trop vibre. Et c'était trop vibre. Et c'était trop vibre. des fois, on se lance des secrets d'horreur.
Par exemple, je regarde un film d'horreur.
C'est histoire de se faire un peu peur, de s'ambiancer.
Des fois, bah, on peut rire tellement qu'on a peur. On se met à crier, du coup, on rigole. J'aime bien me faire peur.
Vous venez d'entendre un extrait du spectacle « La puce et l'oreille » des deux artistes régionaux Sarah Carré et Jean-Bernard Host. Nous allons d'ailleurs retrouver ce dernier.
Je m'appelle Jean-Bernard Host, je suis musicien et je suis à Lille, je suis basé à Lille. Une grande partie de mon travail aujourd'hui, c'est de travailler, de bosser, de créer, d'inventer pour le spectacle vivant.
Alors là, on est à l'issue de la représentation du spectacle « La puce et l'oreille », une sorte de fiction documentaire théâtrale, radiophonique, sonore, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est exactement « La puce et l'oreille » ?
Eh ben, t'as bien résumé, il y a quelque chose de l'ordre du documentaire parce qu'on va sur place enregistrer les enfants. L'idée est assez simple, on est parti avec Sarah Carré qui est l'autrice du spectacle sur cette idée toute simple, une sorte de petite tour de France dans laquelle on est allé demander aux enfants de quoi vous êtes curieux, de quoi êtes-vous curieux à l'âge du CM2 6e. Donc l'âge où on est encore un peu dans les dinosaures, la préhistoire, les volcans, les extraterrestres, et en même temps des questions plus profondes. Et donc le procédé, ça a été de passer une semaine dans chaque école, dont une école à Le Forêt et une autre sur le territoire dont j'ai oublié le nom, en leur proposant plein de jeux sonores, plein d'exercices, plein d'interviews. Ils sont allés faire aussi des interviews d'adultes, on n'a pas pu utiliser toute la matière, mais c'était aller à la rencontre des enfants et leur poser cette question de quoi êtes-vous curieux ? Et notre média principal, c'est le son. Il n'y a quasiment pas d'image, il y a des objets, on en parlera peut-être, mais c'est le son.
Et quels sont les endroits où vous êtes allé, ou les régions, justement ?
Alors, le Nord-Pas-de-Calais, évidemment, avec Le Forêt, Cassel, pour ces régions-là. Nous sommes allés à Blainville-sur-Orne, ça c'est dans le Calvados, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, le début de la Normandie. Nous sommes allés jusqu'au Tarbes, dans le sud, un petit peu à côté de Tarbes, à Saint-Pé-de-Bigorre, vraiment dans les Pyrénées. Et puis, j'oublie encore Pompoint, qui est dans l'Oise, en région parisienne. Et je crois que j'ai fait le tour.
Alors, t'en parlais, le but, c'était de faire de la collecte sonore, mais aussi d'objets, d'idées, et surtout de témoignages, hein, d'enfants comme adultes.
Voilà, on a ouvert les micros, on a établi une relation de confiance avec les enfants, il faut un petit peu de temps. Et puis, on a collecté des paroles sur des sujets aussi vastes que « Qu'y a-t-il après la mort ?» Des questions métaphysiques comme ça qui se posent quand on a 8-10 ans. Mais aussi le rapport qu'ils peuvent avoir avec le temps, le rapport avec l'autorité, avec les adultes, avec l'avenir, avec l'école. Plein de sujets comme ça. Et ensuite, c'est Sarah qui a tracé un fil rouge en regroupant un peu les choses de façon thématique et en faisant des scènes comme ça qui vont pas forcément évoquer une géographie, mais plutôt évoquer un sujet dans lequel on va retrouver une multitude d'enfants. Alors, on a fait énormément de tri parce que le spectacle fait 50 minutes, mais je pense qu'on a au moins 6-8 heures de matière intéressante. Il a fallu couper.
Et comment s'est fait le choix, alors, quand on a autant de matière, comment faire une sélection aussi pour le spectacle ?
Ça a été très compliqué et je crois qu'au final, c'est Stéphane Boucherie qui met en scène, qui nous a fait, et moi le premier, raccourcir des sons, raccourcir des paysages sonores aussi. On entend la rivière à un moment, et donc ce sont des vrais, allez, à 99%, ce sont des vraies sources sonores qu'on a enregistrées nous-mêmes, notamment un petit voyage en train qui faisait 3 minutes, qui était plein d'accents du sud de la France, où j'étais arrivé à Tarbes. Ce genre de choses qui évoquaient vraiment le voyage, et on en a, au final, on arrive à 35 secondes, quoi.
Allô, JB ?
Quoi ?
Oh là, je te réveille.
Ah oui.
Excuse. Dis, tu te souviens de la question d'Olivia ? Pourquoi on n'a qu'une vie ?
Ouais.
Une question comme ça, JB, ça pose question, non ?
Oui, ouais.
Dis, pourquoi on se pose ce genre de questions ? Au fond, à quoi ça sert d'être curieux ?
Écoute, je sais pas.
Qu'est-ce que tu penses, JB ? Est-ce que tu penses qu'on est curieux de naissance ? Ou on le devient ? Ah ! Et tu crois qu'il faut être heureux pour être curieux ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est être curieux qui rend heureux ?
Je sais pas.
Tu vois, je me demandais, JB, quelles autres questions ils se posent, les enfants ? Alors ?
Eh ben, peut-être qu'on pourrait aller leur demander.
Ils ont soif de savoir. Les enfants font des histoires. Moi, je veux comprendre ce monde autour et l'entendre et trouver ma place sur cette terre.
Et donc, il y a du texte, hein, notamment par Sarah Carré durant le spectacle. Et puis, tu joues de la musique aussi en live dans ce spectacle. Tu lances des sons. Tu t'occupes de toute la partie musicale et sonore en live.
En live, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien enregistré à part une chanson qui est une chanson à moi, mais j'ai récupéré le backing track pour pouvoir la chanter en direct avec juste une guitare. Mais le reste, c'est effectivement de la création en direct qui interagit avec le texte. Si Sarah décide de traîner un peu, d'être un peu plus longue, eh ben moi je renvoie les choses un peu plus tard. J'ai toutes les voix d'enfants qui sont sur des pads hein, avec l'ordinateur, qui me permettent de les lancer au bon moment, de presque comme un dialogue virtuel avec elle. Elle connaît évidemment tous les sons des enfants, donc elle sait un peu la durée, l'intensité et l'émotion qui s'en dégage. Et donc tout ça c'est écrit à quatre mains, en ce sens où il y a son texte, et les parties musicales et sonores et les interventions des voix enregistrées.
Et donc, c'est parti aussi de la question de quoi êtes-vous curieux ? Dans le spectacle, ça invite aussi les personnes, donc adultes comme enfants, puisque c'est un spectacle jeune public, à s'interroger aussi à l'issue du spectacle.
Oui, ça peut fonctionner comme un miroir où on se dit, quand on prend le temps et quand on se retourne un peu sur nous-mêmes, de quoi on est curieux, de quoi on a été curieux enfant. Moi, ça m'a fait beaucoup revenir à ça. De se souvenir qu'on se demandait comment ça marche, les choses, hein, tout simplement. C'est un âge où on aime bien comprendre, on aime bien avoir des réponses concrètes, des dinosaures au volcan. Et puis toute la partie, on avait un sujet très très long sur les choses surnaturelles. Alors là, ça partait dans tous les sens. On sent quand même que c'est des gamins à tous les endroits et à tous les âges. On sent qu'Internet est passé par là, que YouTube est passé par là. Donc il y a des choses qui viennent des on-dit, la route infinie. Ils nous ont parlé aussi de la zone 51. Enfin, tout ça vient comme des histoires ou comme des légendes urbaines, en fait. Et ça on sait que ça vient plutôt de la partie Internet de la vie, quoi.
Et parmi les enfants, vous avez remarqué qu'on est loin d'une sorte de normalité ou mimétisme par rapport aux autres. Il y a des enfants qui ont des profils vraiment atypiques, hein, qui ont des histoires même incroyables.
Ah oui, il y a des choses super. Il y a plein d'autres enfants qui avaient des choses incroyables à raconter. Mais on a des interviews d'une heure parfois avec des enfants vraiment pas forcément brillants, mais qui ont quelque chose déjà de très déterminé dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils apprécient et dans ce qu'ils n'aiment pas. Il y a Fidèle, là, qu'on a, et sa sœur Capucine, qui était vraiment incroyable, avec quasiment un niveau de réflexion d'adulte. Et puis, en même temps, on a une petite Mélina, enfin, on a changé le prénom, mais qui rêve de licorne, et on sentait bien que c'est une enfant qui était avec des difficultés intellectuelles, mais la poésie de ce qu'elle nous a ramené, ça nous a vachement touchés, ça nous a évoqué quelque chose du trésor de l'enfance. Elle-même, elle sait très bien qu'elle est un peu dans quelque chose qui rêve. Voilà, j'ai vu une licorne quand j'étais petite, je ne me souviens plus très bien où, mais nous, on a gardé ce truc-là parce qu'on trouve que c'est... On donne une parole égale un peu à chacun et ça fait partie de l'enfance, quoi, de cette espèce de mythologie comme ça un peu floue. On a beaucoup aimé les deux aspects des enfants, ou brillants, pointus et presque intellectuels, ou plutôt encore rêveurs et encore un pied vraiment dans la petite enfance. Quoi.
Salut! C'est là que vit Tyrone. Tyrone est arrivé en retard. Parce que Tyrone n'arrive jamais à l'heure. Sans bruit, il s'est glissé dans la salle et s'est calé dans un coin. Il se tient à l'écart. Non, il est tenu à l'écart. Non, je sais pas, un peu des deux sans doute. Quand il comprend qui on est et ce qu'on fait là, il lève la main pour parler. Les autres sont surpris parce que c'est rare. De quoi il peut bien être curieux, Tyrone. D'abord, un peu timide, il murmure. Moi, je me demande à quoi ça sert l'argent. Pardon ? À quoi ça sert l'argent ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Tyrone ? Tu demandes à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent, d'être riche ? Ou tu demandes à l'inverse, si on peut se passer d'argent ? Là, Tyrone réfléchit. Les autres aussi, ça se voit, hein, ça bouillonne. Bon, chez vous aussi, j'espère. Et puis Tyrone nous dit ceci.
Bah, c'est que les arbres, en fait, ils se coupent pour faire des feuilles. Et comme mes billets, c'est fait avec des feuilles, du coup, ça fait qu'ils coupent les arbres exprès pour les billets.
Et comment ça se passe alors quand vous arrivez dans une école et puis arrivez justement à cette part, entre guillemets, d'intimité avec les élèves? Parce que voilà, c'est pas forcément évident au premier abord de confier des choses, de la vie de chacun.
Alors je pense qu'il y a, il y a eu un travail d'approche avant, avec les instituteurs et les profs, et également un peu de savoir-faire. On a fait quand même 7 résidences en école, donc on a eu le temps d'expérimenter un petit peu et de trouver la bonne forme. Le fait de rester une semaine complète dans l'établissement, de 8h à 17h, hein, ça veut dire que l'endroit dans lequel on est, qui est le même tout le temps, il est ouvert tout le temps, même pendant la cantine. Donc si les enfants, à un moment, avaient envie de venir nous parler en direct ou de manière individuelle ou par petits groupes, ben, ils pouvaient venir. Donc il y avait l'effet classe, où au début, on se regarde tous un peu comme ça, en disant « c'est qui ? C'est quoi ? Ils font quoi ?» Tendre un micro, bah, tu le sais très bien, ça se fait petit à petit. On ne met pas le micro sous le nez des gens comme ça au bout de 2 minutes, parce que c'est intrusif. Donc on prend du temps, on se met en confiance. Et après, ceux qui y vont, ils y vont franchement. Et parfois, ils revenaient nous voir entre les cours ou sur la pause du midi pour venir nous raconter quelque chose, quoi. Parce qu'ils prennent goût aussi. Et puis je crois que le son à cette qualité que l'image n'a plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas identifiable tout de suite, c'est pas une photo, on n'est pas physiquement représenté, donc on a un peu moins peur de se livrer avec la voix qu'avec l'image.
Bah surtout si des prénoms sont changés, c'est ça, il y a quelquefois des personnes qui souhaitent rester anonymes, c'est ça?
Alors ça, c'est un peu un code déontologique qu'on s'est imposé, mais il n'y avait pas de... Non, on n'a eu aucune barrière là-dessus, même effectivement quand sont évoquées des histoires de croyances, hein, parce qu'il y a, il y a tout un chapitre aussi sur bah, qu'y a-t-il après la mort, et on sent chez certains enfants une culture religieuse qui est assez présente. On n'a pas eu de problème avec ça, c'est simplement nous, pour mettre personne mal à l'aise, on a décidé de bouger d'un cran un peu les prénoms pour garder aussi le côté large et complet d'une représentation de l'enfance assez large et pas trop individualisée, quoi.
Et bah, y a même, durant le spectacle, une évocation au téléphone portable avec les parents, cette relation de curiosité un peu malsaine d'aller voir ce que font les autres, hein, aussi bien aussi sur les ordinateurs, l'historique, etc. Avec Sarah, est-ce que vous avez ressenti une génération numérique par rapport à avant et entre les régions? Est-ce que c'est la même chose avec les enfants ou non? Ou il y a des disparités, il y a des différences?
Alors, on était quand même en milieu assez, assez rural en général. On n'était pas dans les, on n'a pas fait de grosses villes, mais on a quand même senti que pour certains, c'est très présent. Ça fait partie du quotidien, mais c'est surtout l'observation chez les autres. Eux n'ont pas encore de portable trop, mais par contre, ils sont curieux du fonctionnement des parents avec tous ces objets-là. Et effectivement, on avait envie, à un moment, c'est venu assez vite, hein, de gratter cette curiosité-là, effectivement, un petit peu... pas malsaine, mais un petit peu humaine. On a envie, on regarde par la fenêtre ce que fait le voisin, quoi. C'est la version un peu numérique de ça. Et c'est vrai que très vite, ils nous ont avoué des trucs mais très drôles, quoi. Très drôles. Effectivement, tomber sur un ancien portable de papa-maman avec des vieilles photos dedans. Et voilà, c'est cocasse. Mais on a quand même senti, ouais, que pour eux, c'était des outils pas encore accessibles comme, je pense, les lycéens le sont, ou les troisièmes, les grands collégiens. Mais CM2, 6e, ils sont à la limite d'avoir envie d'être curieux, mais ils n'y vont pas complètement.
Et donc justement, j'allais vous demander l'âge des enfants. Vous avez rencontré quel profil, justement, école, collège?
Alors, école en CM2, surtout, enfin exclusivement maintenant, je crois qu'on a eu une classe de C. On a eu des écoles avec des classes un peu mélangées parfois, des petites écoles. Et en collège, c'était 6e. Donc, c'est vraiment, je dirais, 10-12, cet âge-là, quoi.
Ah oui, les parents, n'essayez pas non plus de faire des économies sur leur dos en leur refilant vos vieux téléphones. À vos risques et périls.
Mauvaise idée.
Alors moi, ce que je faisais, parce que en fait, mon père m'a donné son téléphone et en fait, il est toujours connecté au sien. Et un jour, j'étais avec quelqu'un, j'étais en train de regarder les photos. Je vois ma mère qui était en train de... il s'est pris une photo, ils étaient en train de s'embrasser. Du coup, j'ai vu la photo et puis là, j'ai dit, c'est quoi ça? Du coup, j'ai regardé tout. Puis là, je vois ma mère. Elle était en train, elle avait embrassé son copain qui s'appelle Vincent.
Oh Vincent, c'est lui qui me fait sourire. Oh non, Vincent. Bon, donc, les parents, si un jour vous trouvez à vos enfants une quelconque ressemblance avec les enfants des autres, n'oubliez pas de changer vos codes et vos mots de passe. Ainsi, vous stimulerez leur curiosité. Voyez, finalement, le monde est parfois bien fait. Et les fouines, on a fini, vous pouvez vous déboucher les oreilles.
Alors là, aujourd'hui, nous sommes au Métaphone, au 99 bis de Wany. Et vous avez déjà joué ce spectacle ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres présentations aussi à venir?
Oui, je crois qu'on en est à la 10e à peu près. On a fait nos premières à Bruay-la-Buissière, au Temple. Ensuite, nous sommes allés en Normandie, du côté de Saint-Brieuc, pour un festival. Ensuite, on est allés du côté d'Hazebrouck. Non, on ira bientôt à Hazebrouck. Et puis, encore des dates qui arrivent, en gros, avec les coproducteurs, c'est-à-dire les lieux dans lesquels nous avons fait les collectes. Donc, au mois d'avril, on descend dans le sud de la France. Au mois de mars, on va à Blainville-sur-Orne. Et puis, on sera au Théâtre du Grand Bleu à Lille une semaine au mois de mars. Puis, encore des dates après, en 2024.
Et vous avez déjà eu des retours d'enfants, justement, qui avaient été interviewés, qui sont venus voir le spectacle?
Alors, ça fait partie entièrement du dispositif, c'est-à-dire que les enfants qui viennent au spectacle sont les enfants qui ont participé aux ateliers. Et donc ça, c'est super. Parfois, ils changent d'école parce qu'ils étaient en CM2, ils arrivent au collège. Mais normalement, avec les équipes avec lesquelles on a travaillé, on peut les retrouver et ils viennent voir. Donc du coup, oui, un an s'est passé pour la plupart. Ça a été un process assez long. Et du coup, ils viennent voir le spectacle et parfois, ils reconnaissent la voix, la leur ou celle d'un copain. Évidemment, on n'a pas pu tout garder. Mais oui, c'est l'idée. Après, d'avoir ce qu'on appelle un bord de plateau, on discute après avec eux de comment ils ont ressenti le spectacle. Est-ce qu'ils sont OK avec tout? Est-ce que ça les fait rire? Est-ce que ça les touche? Est-ce qu'ils se retrouvent dedans, quoi? Et donc, dès demain matin, dès jeudi, on aura une partie des enfants qu'on a eu à Le Forêt, au collège.
Et ce spectacle, alors, il est en coproduction, c'est ça, avec le 99 bis Métaphone? Comment ça se passe?
Oui, alors je suis mal placé pour te parler bien de ça, mais en tout cas, il est en coproduction avec le 99 bis, qui nous a accueillis et soutenus, accueillis en résidence de travail et en résidence scolaire. Ça a été le cas aussi avec la scène nationale de Tarbes, dans le sud, avec d'autres structures dont je n'ai pas les noms en tête, mais en tout cas, quasiment tous les endroits où nous sommes allés, il y a eu une coproduction d'une façon ou d'une autre pour cette semaine de résidence et ensuite généralement un temps d'écriture ou un temps de plateau dans les endroits qui ont des plateaux pour pouvoir mettre tout ça en route. On a passé pas mal de temps à Hazebrouck, notamment avec le théâtre André Malraux, puisqu'on avait la partie à Cassel était coproduite, en tout cas sous l'égide du théâtre André Malraux.
Et ça a pris combien de temps pour remonter ce spectacle, alors, La Puce à l'oreille?
Alors, c'est 7 semaines de résidence en école et ensuite, je pense qu'il y a à peu près 6 ou 8 semaines de plateau, donc de répétition. Et avant ça, il y a un temps d'écriture. Mais une fois qu'on commence le plateau, l'écriture rebouge parce que entre ce que Sarah écrit et puis ce qu'on expérimente au plateau, ça bouge. On dit « Ah, tout compte fait, c'est une bonne idée, mais elle n'est pas bien tournée, donc on va la retravailler. » Et puis moi, j'avais toujours leur dit tous les sons et les montages à faire, à refaire, à raccourcir souvent, à trouver d'autres voix. À un moment, Stéphane m'a dit « là, il faudrait qu'on ait des rires ». Ah ok, bon alors je dois avoir 8 heures de rush ou 20 heures de rush, on va essayer de trouver des rires quelque part. Et puis aussi, par exemple, tous les sons de train là, qu'on entend au moment, ça c'est des vraies prises de son pendant nos vrais voyages. Donc on essaie de garder une forme quand même documentaire et réaliste du voyage qu'on a effectué.
Alors ce spectacle La Puce et l'Oreille, c'est avec l'Embellie Compagnie. Est-ce qu'on peut retrouver des infos sur internet peut-être pour les prochaines dates?
Oui, tout simplement le site de l'Embellie, l'embellie.fr, avec toutes les dates. Il y a d'autres spectacles également qui tournent de cette compagnie. Oui, il y a tout ça sur le site de la compagnie. Et les prochaines dates, je crois que c'est très bientôt, puisque toute une semaine en mars, au plus près d'ici, ce sera le Grand Bleu à Lille.
Mais jamais on vient te chercher. T'as un père, t'en es fier. T'as une mère, deux, trois, pourquoi pas. Ils sont où, ils font quoi? Tu les aimes? Tes amis, tu les aimes? Ton chien, ton chat, t'en as pas? Tu dis les animaux ça pue, tu fais genre, mais j'y crois pas. Paraît que des fois tu vas à l'opéra, c'est vrai ça?
C'était un extrait du spectacle La Puce à l'Oreille, enregistré au Métaphone 99 bis de Wany, lors d'une représentation de Sarah Carré et Jean-Bernard Host, que vous avez pu entendre durant ce reportage. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Embellie Compagnie, l'embellie.fr. Un reportage de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé.
Si je te dis pas, tu sais pas. Si tu demandes pas, tu sais pas. L'inconnu d'à côté, ce serait moi.
C'est froid.
Ou toi. Ou toi.